Bonjour, bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le balado, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous poursuivons notre lecture et méditation de la première épître aux Thessaloniciens. Avant d'entrer dans une analyse un petit peu plus rapprochée du texte, je vous rappelle que ces entretiens ne sont pas des cours de Bible, mais simplement des introductions à la Lectio Divina. Elles sont là pour vous encourager à faire cette lecture et que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence, vous ouvre votre esprit à l'intelligence des Écritures. À cet égard, je voudrais parler un petit peu de ce qu'est la Lectio Divina, à partir d'un classique de la question qui est le livre d'Enzo Bianchi, Prier la parole. Voici ce qu'il dit à la page 21. Il parle de la spiritualité des bénédictins qui ont toujours tenu la tradition monastique de la Lectio Divina. Donc, pour les bénédictins, cette Lectio, c'est méditer, lire et relire, mâcher et murmurer, ruminer et réciter, fixer dans l'esprit et conserver dans le cœur la parole, pour parvenir non à la discussion, non aux sensations, mais à la prière, à la contemplation, et donc à l'action. Alors revenons sur ces quelques verbes qui sont importants. Méditer, c'est lire et relire, mâcher et murmurer. Hein, nous avons dit que la Lectio Divina, c'est pas comme lire un roman ou un article de journal qu'on a lu une fois, ensuite on tourne la page. C'est lire et relire. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dans l'Esprit Saint que nous lisons ce que l'Esprit Saint a écrit. Le Concile Vatican II nous dit dans Dei Verbum qu'il faut lire l'Écriture à la même lumière ou même dans le même esprit que ce qu'il a inspiré, ce qui a inspiré son Écriture. Donc, lire et relire, mâcher et murmurer, on peut dire à haute voix des extraits de notre lecture biblique, si on est tout seul, ça dérange personne. Ruminer et réciter. Ruminer, vous savez, les vaches ils ruminent l'herbe tendre qu'ils broutent dans les champs, s'ils ont la chance d'être dans les champs. Aujourd'hui, c'est rare. Et cela descend dans la panse, donc ça va pas dans l'estomac d'abord. Ça rumine dans la panse, ensuite ça revient dans la mâchoire, et c'est broyé une seconde fois, etc. C'est une belle image de comment, pour passer de la lettre à l'esprit, il y a tout un travail de mastication, si on peut dire. La panse, c'est un peu notre mémoire dans laquelle nous laissons reposer, nous reprenons la parole, ce qui fait que un passage de l'Écriture, une page, un chapitre, on peut le relire des dizaines de fois, peu importe, tant que ça a de la saveur, tant qu'on sent qu'il a de la substance et qu'on veut se l'assimiler. Et le texte continue, fixer dans l'esprit et conserver dans le cœur la parole. Donc, fixer dans l'esprit, il y a plusieurs méthodes de le faire. On peut écrire dans un carnet à parole. On peut souligner dans notre Bible au crayon, mais c'est sûr qu'apprendre par cœur, c'est toujours la meilleure chose à faire. Surtout un texte qui nous a rejoint personnellement. Bien, si on se l'apprend par cœur, à un moment donné, ça va ressortir dans notre discours, car ce qui sort de la bouche, nous dit Jésus, c'est ce qui déborde du cœur. Voilà. Ensuite, Bianchi continue en disant, à la page 22, les hommes qui dans l'Église ont des ministères visibles, s'ils ne sont pas formés à la Lectio Divina, s'ils ne retournent pas aux sources de la parole, seront dans leur prédication, leur magistère et leur pastoral des hommes superficiels, sans assurance, plutôt habitués à traiter de problèmes théoriques, incapables de dire une parole forte avec autorité, comme le Christ, mais semblables aux scribes rougissant souvent de l'Évangile qu'ils annoncent. Seule la parole écoutée, accueillie, gardée et méditée peut susciter des prophètes capables de choix libérateurs et d'avant-garde. Seule elle peut faire d'eux des hommes qui, fidèles à la terre et à l'humanité, nous parlent de Dieu. Fin de la citation, donc, de Prier la parole d'Enzo Bianchi. Alors maintenant, nous allons commencer à examiner le texte de la première épître aux Thessaloniciens, la toute première que saint Paul ait écrite, probablement autour de l'année 50 ou 51. Donc c'est un document d'une grande valeur historique sur l'histoire de notre religion, de notre foi, l'histoire de la première Église. On pourrait dire que l'épître se répartit ou se divise en deux grandes parties, les chapitres 1 à 3, où Paul fait une grande action de grâce, il fait mémoire de la fondation de cette Église, il fait l'éloge de ses membres, il fait aussi un petit peu son apologie, l'apologie de son autorité apostolique, et dans la deuxième partie, 4 et 5, il va développer plus une exhortation morale qu'on appelle parénèse dans la Bible, en commençant par dire que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Pourquoi cette structure? Bien, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire que ça nous rappelle que le don de Dieu est premier et que la réponse de l'être humain vient en second. Et cette réponse, elle vient appuyer sur le don de Dieu. C'est pas Dieu qui agit, puis ensuite l'être humain qui se débrouille avec ses forces pour répondre aux exigences de l'Évangile. Non, 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 non. C'est toujours le don de Dieu qui est à l'œuvre, mais sous la forme de la réponse humaine. Ensuite, le texte prend la formule ou la structure classique de toutes les épîtres et aussi un peu de la littérature de cette époque classique, de l'Antiquité. Donc, ça commence par une adresse qui est assez brève, où Paul, ou plutôt les auteurs s'identifient et ils saluent les interlocuteurs. Et une deuxième partie qui est une longue action de grâce. On retrouve ça dans toutes les épîtres, on le retrouve dans celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'on voit au chapitre 1, verset 1? Qu'est-ce que l'on lit? Eh bien, il est écrit « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. » Alors, en disant ça, excuse-moi, on pourrait se dire « Bon, ben, c'est la gang de Paul qui écrit à la gang de Thessalonique » quand on évoque l'énumération de ces trois noms-là. Mais en fait, ça a un sens symbolique important. Dans la Bible, toute vérité doit être attestée, c'est le livre du Deutéronome qui l'exige, par un ou deux témoins en plus de celui qui témoigne. Donc, en nommant trois personnes, Paul, Sylvain et Timothée, enfin Paul l'auteur, quand il cite ses deux compagnons, eh bien il veut montrer le caractère vraiment solennel et officiel, si on peut dire même canonique, la valeur spirituelle de cet écrit, puisqu'il est corroboré par deux autres témoins, dont Sylvain, qui est un prophète, qui était présent au concile de Jérusalem, dont nous avons parlé dans notre dernier entretien, et le jeune Timothée, qui l'a sans doute amené d'Antioche, et qui sera le visiteur de cette communauté naissante. Alors, il écrit à l'Église de Dieu, l'Ecclésia, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, ça, on pourrait dire, ben, c'est une formule rituelle, etc. Mais il y a quelque chose de profond dans cette affirmation. Hein, que l'Église, c'est pas une entreprise humaine. Que l'apostolat des apôtres, de ceux qui sont venus fonder, ils ont fondé dans le Christ. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, Paul il dit « Comme un bon architecte, j'ai posé la fondation. » Et de fondement, ben, il n'y en a pas d'autre que celui que j'ai posé, c'est-à-dire Jésus le Christ. Et que chacun fasse attention à la manière dont il va bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, ou bien du bois et du foin. En disant cela, Paul donc montre bien que le fondement de l'Église, qu'il a en tout cas posé, est surnaturel. Il ne s'agit pas de Paul ou d'Apollos, il y en a un qui a semé, l'autre qui a arrosé, mais c'est Dieu qui est le fondement, c'est Dieu qui donne la croissance en son Fils Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui a envoyé son Église annoncer la grâce et la paix. C'est-à-dire que c'est par grâce que nous sommes sauvés, et c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde avec lui, dans 2 Corinthiens 5, en annonçant la paix du salut. Voilà. Donc, vous voyez, dans ces quelques lignes très brèves, il y a déjà une grande densité théologique et spirituelle. On continue donc avec l'action de grâce au verset 2. Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que je lis ce passage, j'ai toujours cette image, vous savez, d'un fil électrique, là, avec ces trois brins qu'on branche dans une prise de courant avec trois trous, et clac. Voilà, parce que par l'annonce de l'Évangile, par le salut qui est entré dans cette communauté, eh bien, ces croyants ont été branchés en Dieu par les vertus théologales. Qu'est-ce que ça veut dire, une vertu théologale? Eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui amène à Dieu. C'est Dieu qui nous donne de croire. Mais c'est une vertu aussi parce que ce don, il vient se greffer à notre nature humaine, sur notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. Mais c'est Dieu qui est à l'origine de ce don et c'est Dieu qui en est la finalité. Rappelez-vous, Matthieu 16:16, quand Jésus demande à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui déclare, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, c'est pas parce que tu es plus fin que les autres, mais c'est parce que tu as eu une grâce du Saint-Esprit qui t'a permis de reconnaître le Fils du Dieu vivant dans cet homme, Jésus de Nazareth. Donc, Paul est fier et heureux de l'activité de cette foi, le labeur, de la charité, la constance, de l'espérance, comme si la vie chrétienne était bien déployée dans cette communauté chrétienne. Et il continue, nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit-Saint, en surabondance. Paul, encore une fois, c'est la première partie de l'Épître, nous rappelle d'abord le don de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, dit Saint Jean dans la première lettre, chapitre 4, mais c'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. C'est lui qui nous a choisis, début de l'Épître aux Éphésiens, avant la création du monde, pour que nous devions fils adoptifs par Jésus-Christ. Et le signe que ce n'est pas un mythe ou une belle idée généreuse, c'est justement l'activité de la foi, le labeur de la charité et la constance de l'espérance et aussi, un peu plus loin au verset 6, parce que vous avez accueilli la parole parmi bien des tribulations avec la joie de l'Esprit-Saint. Voilà le signe que vous avez été choisis. Voyez, voilà le signe que vous êtes sauvés, que vous êtes sanctifiés, c'est que malgré les tribulations, malgré le fait que vous êtes orphelin de votre fondateur, puisque Paul n'a pas pu rester aussi longtemps qu'il aurait voulu pour poser les fondations, malgré tout cela, eh bien, vous êtes dans la joie de l'Esprit-Saint et vous avez accueilli la parole malgré les tribulations. Et il dit, cet évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit-Saint, en surabondance. Rappelez-vous aussi, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, Paul dit, « Je ne suis pas venu à vous avec les discours persuasifs de la sagesse. » Il faisait allusion à ces grands rhéteurs, ces sophistes de l'époque qui étaient des experts de la parole et qui pouvaient vous convaincre de n'importe quelle folie s'ils voulaient tellement ils maîtrisaient la technique de la parole. Non, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse, mais ma prédication était une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, cette prédication, elle est puissante, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne de signes, de miracles, de conversions, de vies transformées par l'action de l'Esprit-Saint en surabondance. Les signes du royaume sont là, et c'est pourquoi ils ont accueilli cette parole, donc parmi bien des tribulations, mais dans la joie de l'Esprit-Saint.